Le message que vous allez écouter est tiré de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du Dr David Platt, pasteur de l'Église Brook Hill aux USA.
Les secrets de l'Église à la découverte du Saint-Esprit. Alors que ma femme et moi sortions ensemble depuis quelques années, il me parut évident que Dieu était dans l'affaire. Et la pensée me vint de faire ma demande en mariage à cette jeune fille. Je me mis alors à la recherche d'une bague de fiançailles. Si vous êtes un jeune homme, je vous encourage vraiment à commencer à mettre de l'argent de côté pour cet investissement. Cela va vous coûter cher. Donc, je mis de l'argent de côté et achetai la bague. Je me souviens de l'avoir trouvée un mardi matin. J'ai une tendance à égarer les choses et je ne voulais surtout pas la perdre. Alors, aussitôt après avoir fait mon achat, j'eus la conviction que je devais m'en débarrasser le plus rapidement possible. Mon plan était de faire ma demande le mardi soir. Donc, il me restait 10 heures pendant lesquelles je serais contraint de garder la bague sur moi. Je n'avais qu'une course à faire. Il fallait que je me rende au centre commercial pour acheter un disque dans un magasin de musique. Disque que j'utiliserais pour la soirée de fiançailles. Ce qui est une autre histoire. Je vais donc me procurer ce disque et j'étais effrayé à l'idée d'être agressé par quelqu'un en me rendant dans ce centre commercial et qu'on me vole la bague. C'était une journée spéciale pour moi. Alors je pris la décision de m'entourer de toutes les précautions. Il ne faisait pas très froid dehors, mais je pris le manteau le plus épais que je possédais. Celui-ci avait une petite poche à l'intérieur. J'ouvris la fermeture éclair de la poche, glissai la bague dedans, refermai celle-ci. Ensuite, j'enfilai mon manteau. En sortant du véhicule, à mon arrivée au centre commercial, je gardai ma main sur la poche, afin de m'assurer d'avoir toujours la bague à portée de main. Je n'y jetais même pas un coup d'œil. Je voulais seulement entrer dans le magasin, faire rapidement ce que j'avais à faire et m'en aller. Je pénétrai dans le magasin de musique et me mis à la recherche de ce CD, mais j'eus du mal à le trouver. Un peu embarrassé, je me mis à regarder autour de moi et décidai de demander de l'aide. Je m'approchai alors d'une employée et lui dis « Je cherche ce CD. Pouvez-vous m'aider ?» Elle répondit « Mais bien sûr !» Puis, elle se mit à me piloter dans le magasin à la recherche du CD, tout en essayant d'entamer la conversation. Moi, je n'étais pas d'humeur à bavarder contrairement à elle, et elle me demanda « Pourquoi voulez-vous acheter ce CD en particulier ?» Je lui répondis que j'allais me fiancer le soir même. Elle répondit « Vraiment ? Est-ce que vous avez la bague sur vous ?» C'est un de ces instants où vous vous demandez si, dans ce cas précis, sans s'embarrasser de morale, il ne serait pas plus judicieux de mentir. Je la regardais et je lui dis la vérité. « Oui, madame, j'ai cette bague. » Elle me répondit qu'elle aimerait bien la voir. Et voilà la pensée qui me vient alors. Ça y est, je vais devoir la sortir. Et cet homme là-bas, il va se précipiter sur moi et me la prendre. Tout est fini. Nous nous trouvions dans le fond du magasin. Alors, en tournant le dos à tout le monde, j'ouvris la fermeture éclair de ma poche intérieure, retirai la bague et lui montrai. Elle se pencha, la fixa du regard et dit « Mon Dieu, comme elle est belle !» Ensuite, elle se redressa et commença à crier à tous ses collègues « Hé les amis, ce jeune homme va se fiancer, venez voir la bague !» J'étais dans l'expectative. J'allais la balancer à quelqu'un. De toute façon, quelqu'un allait sûrement me la prendre. Je lui faciliterais le travail en lui la donnant à cet instant-là. Toutes les personnes présentes dans le magasin s'approchèrent et se mirent à regarder la bague. Je n'avais qu'une idée en tête. « Madame, donnez-moi mon CD, tout de suite !» Finalement, c'est ce qu'elle fit et je sortis alors du centre commercial en courant. Je me souviens que ce jour-là, tout avait changé pour moi. La manière dont je parlais, la façon dont je marchais et mon comportement. Tout avait changé quand j'avais pris conscience de la valeur de ce que je possédais. Je voudrais vous rappeler, au travers de cette étude, que nous possédons un trésor précieux, le Saint-Esprit qui habite en nous. Il vit en nous. C'est l'Esprit Saint qui fait sa demeure en nous. Et je suis convaincu que nos vies de chrétiens connaîtront un changement radical si nous réalisons que nous possédons un trésor. Si nous croyons réellement à la valeur de ce trésor énorme et précieux, le Saint-Esprit demeurant en nous. Ce sujet ne vient pas par accident ou par coïncidence. Récemment, lors de circonstances diverses, en réalisant en grande partie ma complète et pure incapacité à accomplir mon ministère pastoral, j'ai été confronté à ma propre suffisance, ce qui m'empoisonne l'existence. Au cours de ce cheminement, j'ai pris conscience avec effroi de la réalité suivante. Je suis participant. Il serait même plus juste de dire « nous faisons partie aujourd'hui d'un système religieux » qui a mis en place une foule de moyens et de méthodes pour faire fonctionner l'Église. Ces méthodes font que nous n'avons pas, ou presque pas besoin, du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans l'obligation de nous prosterner devant Dieu et de jeûner pour la croissance de l'Église. Nous avons le marketing, nous n'avons pas besoin de présenter les foules dans la prière, nous avons la publicité. Nous nous sommes trompés nous-mêmes et avons cru à tort que la présence du corps humain dans un bâtiment était l'expression de la vie spirituelle. Je suis convaincu dans ma propre vie, comme pour l'Église ici, et les églises représentées tout autour du monde de ce danger. Nous pouvons passer notre temps dans la routine, les programmes et les activités, et en fin de compte, nous retourner en nous apercevant que le Saint-Esprit a été complètement absent et négligé dans ce processus. Plus que jamais, je suis convaincu que le plus grand obstacle, et je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais je ne pense pas que cela soit exagéré. Le plus grand obstacle à l'avancement du royaume de Dieu dans le monde est le fait que l'Église de Dieu cherche à accomplir le travail de Dieu en dehors de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Peut-être n'est-ce pas l'immoralité complaisante du monde qui nous entoure, mais plutôt la mentalité d'autosuffisance qui affecte l'Église, qui fait obstacle à l'avancement de l'Évangile dans le monde. À Brookhill, un peu plus tôt cette année, nous venons d'étudier le texte d'Exode 33, et mon intention est de vous rappeler combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais faire de mon mieux pour ne pas prêcher tout un sermon sur le sujet, comme si nous n'avions pas assez d'informations pour faire le tour de la question dans cette étude. Une question cruciale. Je vous pose une question fondamentale. Sommes-nous, en qualité de peuple de Dieu, appuyés sur nos propres capacités? Ou avons-nous désespérément besoin de son esprit? Ressentons-nous un besoin désespéré de son esprit? Exode 33, 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux coups raides. Exode 33, 15 à 18. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Au début de ce chapitre, Moïse en est à ce stade. Il vient de conduire, à travers le désert, le peuple de Dieu hors de la captivité d'Égypte. Cet épisode se déroule avant leur errement dans le désert, à l'époque où ils verront le pain tomber du ciel et l'eau couler des rochers. Dieu a déversé sa grâce et sa majesté et les a fait passer à travers la mer Rouge. Là, ils ont vu, comme dans un rétroviseur, l'eau revenir et s'abattre sur les Égyptiens. Dieu s'est manifesté, et voilà où il les amène. Juste après Exode 32, c'est le moment où Moïse va monter sur la montagne pour Dieu. Moïse redescend, et le peuple est en train d'adorer le veau d'or et de s'adonner à toutes sortes de festivités. Voici une des plus incroyables illustrations de ce qu'est l'intercession dans l'Ancien Testament. Moïse plaide pour le peuple de Dieu, et par la grâce de Dieu, seulement 3000 personnes périssent en fin de compte. Ensuite, Dieu dit au chapitre 33, « Voilà ma proposition. Je vous ai promis ce pays, la terre promise, pays où coule le lait et le miel. Elle est à vous. Elle est à vous pour que vous la preniez. Mais il y a un problème. Je n'irai pas avec vous dans ce pays. » Voilà ce que fait Moïse. Il peut avoir la bénédiction de Dieu. Il pourrait recevoir les bénédictions de Dieu sans la présence de Dieu. Quelle réponse va-t-il donner? Soyez prudent avant de répondre à cette question. Les bénédictions de Dieu sans sa présence, n'est-ce pas exactement le genre de christianisme que nous avons fabriqué de nos jours? Dis cette prière, tu iras au ciel. Fais l'expérience de ses bénédictions. Rien ne t'oblige à vivre avec lui comme ton sauveur et ton Dieu. Tu n'as pas besoin de soumettre ta vie à son autorité jour après jour. Ceci est un blasphème. Vous n'irez pas au ciel si vous ne voulez pas de Dieu, contrairement à ce que les évangéliques populaires vous invitent à faire aujourd'hui. Vous ne venez pas à Christ pour recevoir seulement le pardon, une vie meilleure et abondante. Le ciel est plein de choses, même si ces choses sont excellentes. Non, vous venez à Christ pour rentrer en contact avec Dieu, et toutes ces choses coulent de lui. Nous avons besoin de Dieu seul, et seul le Saint-Esprit peut se révéler lui-même à nous. Donc Moïse implore, « Dieu, je ne peux pas faire un pas de plus sans la plénitude de ta présence. » C'est un point très important pour notre compréhension de ce sujet. Nous devons ressentir un besoin désespéré de l'Esprit. Quatre raisons pour lesquelles nous devons rechercher ardemment son Esprit. Il existe quatre raisons pour lesquelles nous devons vouloir à tout prix son Esprit. Premièrement, nous avons une mission que nous ne sommes pas capables de remplir. Moïse regarde ce que Dieu l'appelle à faire et la tâche qu'il a mise devant lui. Faire entrer le peuple dans la terre promise, et il dit, « Je ne peux pas, Dieu. Il est impossible de faire rentrer le peuple sans ta présence. Il y a une discordance évidente entre ce que tu me demandes de faire et les ressources que tu m'as données. » Il voit la profondeur et l'étendue de sa mission, et cela le conduit au désespoir. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles nous perdons ce sens du besoin aigu de l'Esprit est que nous oublions l'immensité de la tâche à laquelle nous avons été appelés. Soyons honnêtes, depuis la dernière session d'enseignement, 100 000 personnes ont été tuées par un cyclone en Birmanie. Plus de 70 000 ont perdu la vie brutalement dans un tremblement de terre en Chine. Ces gens n'avaient-ils que peu de contact avec l'Évangile. Depuis ma dernière session d'enseignement, il y a eu des changements dans de nombreux pays. Les besoins dans le monde continuent de s'accroître parallèlement à la crise alimentaire globale en lien avec les désastres économiques. Aussi longtemps que dans l'Église, nous pensons nous frayer notre chemin au travers de ces situations par des programmes, nous perdons espoir. Quand nous sommes prêts à dire « Seigneur, cette tâche est trop grande pour nous. Il nous faut ton esprit. » Alors, notre compréhension s'ouvre. Nous avons une mission que nous ne pouvons pas accomplir. C'est pourquoi nous avons un besoin crucial de l'esprit. Nous avons un privilège que nous ne pouvons pas abandonner. Allons à Exode 33, 7 à 11. Je veux que vous imaginiez la scène avec moi. Moïse prit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, restait dans la tente. Si le verset 11 ne vous laisse pas abasourdi, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Comprenez bien, Moïse sort de sa tente. Vous êtes en train de passer un moment sous votre tente à bavarder avec des amis et soudain, le bruit se répand que Moïse va entrer dans la tente. Alors des multitudes de personnes sortent de leur tente. Et ensemble, vous vous tenez tous debout dans un silence religieux, regardant cet homme venir à votre rencontre. Vous le fixez du regard alors qu'il se dirige vers la tente. Il l'ouvre, y pénètre et la referme. Puis une colonne de fumée arrive et se pose au-dessus d'elle. Toute la communauté, dans la foi, se tient dans la crainte, car un homme est en train de rencontrer Dieu. Quel spectacle ! C'est un de ces épisodes de l'Ancien Testament que vous avez de la peine à quitter. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que par la grâce de Dieu et au travers du pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons pas besoin de sortir, de fixer notre regard sur un homme, un responsable privilégié qui rentre dans un sanctuaire pour rencontrer Dieu. Chacun de nous, ici, s'il est en relation avec Christ, a le privilège de se tenir dans la tente avec ce Dieu-là. Il a ce privilège pour nous. Un droit réservé à une petite minorité dans l'Ancien Testament, nous avons ce privilège de vivre, de marcher et d'expérimenter cette réalité quotidiennement. Nous devons être ce peuple qui cherche à tout prix le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous être si occupés par les choses de la vie et ignorer ce privilège? Ce privilège-là, nous ne pouvons pas le négliger. Nous avons une famille que nous ne pouvons pas oublier. Au verset 15 et 16, Moïse ne prie pas seulement pour que Dieu le bénisse, mais aussi pour qu'il bénisse son peuple. Il crie à Dieu pour que celui-ci déploie l'abondance de sa présence sur son peuple, sur vous, sur moi, sur nous. Au milieu de la nuit, nous allons percevoir que le Saint-Esprit se meut au milieu de son peuple. Oui, il agit dans nos vies en tant qu'individu, à n'en pas douter. Mais son travail vise surtout un peuple qui veut modeler à l'image de Christ. Nous sommes ensemble dans cette réalité. Nous avons un Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Quand nous examinons le verset 18, Moïse dit ceci. « Maintenant, montre-moi ta gloire. » Je crois qu'il s'agit d'une des prières les plus courageuses dans l'Ancien Testament. Réfléchissez. Voici l'homme qui a vu la gloire de Dieu dans le buisson ardent, qui a été en première ligne au moment des plaies d'Égypte, qui a conduit le peuple à travers la mer Rouge. C'est cet homme qui a frappé le rocher pour en faire sortir de l'eau, qui a intercédé pour que la nourriture descende du ciel. Quand tous s'enfuyaient de la montagne parce que c'était dangereux, Moïse fut le seul à y monter et à voir la gloire de Dieu. Si quelqu'un avait vu la gloire de Dieu, c'était bien Moïse. Et maintenant, lui-même en arrive au point où il dit « Montre-moi ta gloire ». Comment est-ce possible? Voici ce qui se passe. Une fois que vous avez fait l'expérience de la gloire de Dieu, vous avez un désir insatiable de plus, de plus encore plus. Vous voulez vivre plus de sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être ce peuple assoiffé du Saint-Esprit. À cet égard, il nous faut jeter un coup d'œil à Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Vous pouvez écrire les références. Dans ces versets, Jésus s'adresse à ses disciples en disant « Le Saint-Esprit, quand il viendra, vous prendra de ce qui m'appartient, de ce qui est à moi, il vous le fera connaître. » Jésus dit en somme « Tout ce que le Père possède est à moi. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui m'appartient et vous le fera connaître. » Quelle bonne nouvelle! Plein de bonnes choses! Tout ce que le Père possède appartient à Jésus et lui va nous le faire connaître. Et il le fera à travers son esprit. Vous et moi, nous avons une piste pour faire l'expérience, connaître et grandir dans la gloire de Dieu, moment après moment, jour après jour, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Si nous voulons connaître la gloire de Dieu, il nous faut être un peuple qui recherche désespérément son esprit. Voici les quatre raisons pour rechercher ardemment le Saint-Esprit. Elles nous conduisent à quatre prières que nous pouvons faire ensemble au cours de cette étude. Quatre prières à faire ensemble. Au milieu du grand réveil, le prédicateur Jonathan Edwards a dit « Quand Dieu a le projet d'accomplir quelque chose de très grand pour son Église, sa volonté est que les prières extraordinaires de son peuple le précèdent. Que la présence de Dieu descende. » Psaume 44, verset 23. « Réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Lève-toi pour nous secourir. » Psaume 80, verset 14. « Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. » Réveille-nous. Que la présence de Dieu descende dans nos cœurs d'une manière puissante. Que la parole de Dieu retrouve sa place au milieu de nous. On trouve cela dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34. Ce sont des moments dans l'Ancien Testament où la puissance de Dieu est déployée de manière inhabituelle. Dans Néhémie 8, Esdras ouvre le livre devant le peuple, debout. Le peuple lève les mains au ciel et commence à crier « Amen, Amen !» Il se prosterne en réponse à sa parole. Dans 2 Chroniques 34, nous avons trouvé le livre que nous avons négligé, le livre que nous avons ignoré, nous l'avons trouvé. Il provoque l'étincelle du réveil au milieu du peuple d'Israël. Que la parole de Dieu revienne au milieu des siens. Que nous recevions sa parole. De la même manière que le peuple de Dieu l'a reçue lorsqu'Esdras a ouvert le livre et que les gens ont répondu et adoré. Que nous mettions en pratique sa parole. Notre but, au cours de cette étude, n'est pas d'apprendre une doctrine sur le Saint-Esprit. Si notre motivation est d'apprendre encore plus de choses, alors nous avons raté la cible, car ce serait un but très égoïste. Le but n'est pas non plus de nous divertir. Ce n'est pas un amusement. Il s'agit d'être équipé. Mon but est que cette étude vous permette d'aller dans le monde pour enseigner aux autres les vérités sur le Saint-Esprit. Je vous exhorte donc à écouter ce message en ayant à l'esprit des personnes qui se trouvent dans votre entourage. Écoutez ce message en pensant à ceux que Dieu vous enverra et que vous formerez en tant que disciples tout en bâtissant une relation amicale avec eux. Soyez attentifs à cet enseignement en gardant à l'esprit toutes les personnes que vous aurez l'opportunité d'enseigner dans le monde entier sur Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Que la sainteté de Dieu nous imprègne, que la parole de Dieu revienne, que sa présence descende et que cette parole soit mise en pratique et que sa sainteté se manifeste. Je prie que le temps que nous passons ensemble soit un temps qui nous épure, que nous devenions de plus en plus semblables à l'image de Christ. Que ce ne soit pas seulement une étude biblique. Notre volonté est d'être davantage semblables à Christ à la fin de cette étude. Nous voulons grandir dans la sainteté. J'ai prié pour que Dieu, par son Saint-Esprit, réveille notre conscience, qu'il expose le péché dans nos vies, qu'il nous affine, nous purifie alors que nous cherchons à connaître le Saint-Esprit au travers de sa parole. Que sa sainteté vienne. Que le peuple de Dieu revienne à la vie. Que toute forme d'indifférence soit terrassée dans notre vie chrétienne sous toutes ses formes. Que l'autosatisfaction soit détruite par une soif fraîche et un désir de connaître la gloire de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Une de mes histoires préférées concerne Moody, un prédicateur célèbre dans le passé. L'histoire se déroule alors qu'il allait de lieu en lieu aux États-Unis pour prêcher dans des réunions de réveil. Beaucoup de personnes se tournaient vers Christ. Il avait commencé son ministère en Angleterre, et son biographe raconte qu'au début de son ministère, il passait dans une église en particulier. Alors qu'il prêchait un dimanche, il prêcha de toute sa force. C'était un de ces moments où vous vous demandez si quelqu'un est vraiment à l'écoute, tant la vie semble avoir déserté l'auditoire. Il termina et encouragea les gens à répondre à l'appel de l'Évangile, et personne ne répondit. Une ambiance de mort. Moody était censé prêcher de nouveau dans la soirée, mais il était très découragé. Une partie de lui n'avait même pas envie de revenir ce soir-là. Malgré tout, il revint et prêcha encore. Il raconte dans son journal que quand il prêcha ce soir-là, l'état d'esprit dans la salle avait complètement changé. Les gens étaient assis, impatients, attentifs à chaque parole. Il termina et encouragea les personnes à répondre à l'appel de Christ par ces mots. « Si vous voulez placer votre foi en Christ ce soir, je vous invite à vous lever. » De partout, des gens se mirent debout. Ces mêmes gens qui étaient là le matin, même complètement endormis. Moody pensa qu'ils avaient peut-être mal compris le message. Alors il leur demanda de se rasseoir. Il reprit la prédication de l'Évangile, puis réitéra sa question. « Maintenant, si vous voulez vraiment vous confier en Christ ce soir, levez-vous. » Plus de gens se levèrent que la première fois. Moody n'était toujours pas convaincu. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, il leur demanda encore de se rasseoir. Il recommença la prédication de l'Évangile et enfin annonça. « Maintenant, si vous voulez vraiment répondre à l'invitation de Christ ce soir, je vous invite à me rejoindre ainsi que le pasteur dans la salle attenant à celle-ci après la réunion. » Il se dit qu'il pourrait voir ceux qui étaient réellement intéressés par le fait qu'ils iraient là-bas. Ils clôturèrent donc la réunion et passèrent dans la pièce d'à côté. Et elle était pleine à craquer. Les gens étaient debout, serrés les uns contre les autres. Mais Moody était toujours sceptique. Il prêcha une nouvelle fois l'Évangile et dit « Maintenant, si vous voulez placer votre foi en Christ, revenez demain soir. » Moody quittait la ville le lendemain matin, alors il annonça « Vous pouvez revenir demain soir et c'est le pasteur qui vous parlera. » Il se leva le lendemain matin et quitta la ville, laissant tous ses gens dans l'attente. Il rejoignit le lieu où il allait prêcher et reçut un télégramme du pasteur de l'église. « Moody, il faut que vous reveniez ici. Plus de personnes se sont levées ce lundi soir que pendant la soirée de dimanche. Ils veulent tous donner leur cœur à Christ. Moody s'en retourna et prêcha plusieurs semaines de suite dans cet endroit. Et la ville entière expérimenta un puissant réveil. Un pourcentage énorme de personnes vinrent à la foi en Christ. Moody était un homme curieux et il voulait savoir ce qui s'était produit entre le dimanche matin et le dimanche soir. Quelque chose avait fait la différence. C'étaient les mêmes personnes présentes, mais l'atmosphère était différente. Il commença ses recherches. Il découvrit qu'il y avait une dame alitée dans la région qui avait lu des informations concernant son ministère aux États-Unis. Elle n'était pas présente au culte ce matin-là, mais sa sœur y était. Lorsque sa sœur lui apporta son repas, elle lui demanda comment le culte s'était déroulé. Sa sœur lui répondit, « c'était d'un ennui. Un homme, Moody, a apporté la prédication. Immédiatement, le regard de cette dame s'illumina. Elle répondit à sa sœur, « J'ai prié pour que cet homme vienne prêcher dans notre communauté. Enlève-moi cette nourriture. Je vais jeûner le reste de l'après-midi. Je vais prier que le Saint-Esprit déverse sa bénédiction sur notre église et notre ville au travers de cet homme. Je partage cela avec vous, car je crois que ce temps que nous passons ensemble dans cette étude sera vain si nous nous soustrayons au pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Je vous invite à vous retrouver en groupe et à passer un petit moment, si possible, pour demander, supplier, prier de toute votre force. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, montre-nous, purifie-nous. Priez ces quatre prières que j'ai mentionnées. Que ta présence vienne, que ta parole revienne au milieu de nous, que ta sainteté se manifeste, que ton peuple revive. Prenez une minute avec les personnes qui vous entourent et priez ensemble. Ensuite, je terminerai. Prions maintenant ensemble. Père, nous venons à toi pour t'exprimer notre profond besoin de ta grâce. Nous savons que si nous nous trouvons ici, à ton écoute, ce n'est pas par nos mérites ou grâce à nos œuvres. Nous sommes sauvés par ta grâce. Nous possédons ta parole par ta grâce. Nous sommes dépendants de ta grâce pour chaque bouffée d'air que nous inspirons. Nous avons besoin de toi pour tout. Nous prions que tu nous rendes sensibles, comme Moïse, au danger qu'il y a de chercher à aller de l'avant dans nos vies personnelles comme dans nos vies d'église, sans compter sur le pouvoir que donne la plénitude de ta présence. Donne-nous des cœurs qui crient à toi et disent « Montre-nous ta gloire, nous voulons ta gloire, nous prions que la puissance de ta présence se manifeste en cet instant, qu'elle soit visible, que nous ne puissions y échapper, que nous puissions la reconnaître. » Nous prions Dieu pour que tu nous purifies, que tu nous transformes, réveille-nous, éveille-nous Seigneur à ta gloire et aux réalités qui sont inscrites dans ta parole. Dieu, réveille nos cœurs et nos intelligences pour que nous te voyions comme tu es, pour que nous ayons de la joie à te reconnaître et que nous fassions nos délices de toi, pour que nous puissions te louer et t'adorer et enfin, pour que nous te proclamions dans les nations en communion avec tous nos frères et sœurs persécutés. Père, nous prions pour que ton Saint-Esprit imprègne ces instants d'une manière surnaturelle, extraordinaire, indescriptible. Nous te le demandons, car nous sommes conscients que nous ne pouvons rien produire de nous-mêmes. Nous savons que tout arrive à cause de ta grâce souveraine. Nous t'en supplions, Dieu, montre la plénitude de ta présence au travers de ta parole. Aide-nous à expérimenter cette plénitude dans nos vies et dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Une étude en quatre volets. Voici les quatre volets de notre étude d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, un mystère et une histoire. Nous allons survoler cette question. La personne du Saint-Esprit, qui est-il ? L'œuvre du Saint-Esprit, que fait-il ? Nous nous consacrerons essentiellement à ce point. Pour finir, des questions importantes autour des thèmes suivants. Le blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que le péché impardonnable ? Le baptême dans l'Esprit, que dire du premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième baptême ? Que signifie être rempli du Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit et en particulier les dons de miracles et la prophétie, les langues, la guérison. De tout cela, nous parlerons quand nous aborderons la question du parler en langue. Nous allons passer un bon moment, c'est certain. Ça va être super. Le Saint-Esprit, un mystère, une histoire. Voici une citation de Bernard Rahm. Prétendre savoir beaucoup de choses sur le Saint-Esprit est contraire à la nature même de l'Esprit. Il y a un côté caché de l'Esprit qui est impossible de découvrir, une immédiateté que nous ne pouvons pas nous représenter, une dimension d'invisibilité que nous ne pouvons pas appréhender. Il y a une réticence de l'esprit à se livrer qui le rend difficile d'accès. Pour toutes ces raisons, on peut se sentir impuissant, incapable et indigne d'écrire une seule ligne sur l'Esprit Saint. C'est, en un sens, une façon bien triste de commencer notre étude, mais j'ai choisi cette situation pour insister sur le fait qu'explorer le mystère de l'Esprit constitue de multiples façons un challenge pour nous. Explorer le Saint-Esprit, c'est faire face à un mystère. L'Esprit est indispensable. La réalité, c'est que sans l'Esprit, vous et moi, nous n'existerions pas. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Évangile, pas d'Écriture, pas de foi, pas d'Église, pas de christianisme et pas de chrétien. C'est pour cette raison qu'il y avait un tel sentiment d'urgence dans les paroles que Jésus adressa à ses disciples avant de monter au ciel. Il leur dit « N'allez nulle part avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'Esprit. » Il jette un regard sur ces hommes. Ce ne sont pas les plus intelligents sur la planète. Et voilà ce qu'ils pensent. La pire chose que vous pourriez faire, c'est d'essayer de vous y prendre par vos propres forces. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous devez patienter. Je vais envoyer ma présence au cœur de vos vies. Ensuite, ça ira. Mais si vous n'attendez pas, tout sera voué à l'échec dès le départ. C'est la même réalité aujourd'hui. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes des hommes et des femmes plus intelligents que les autres. Nous avons reçu un appel précisément parce que nous étions faibles dans ce monde. Alors, prenez courage. Dieu vous a appelé par votre nom parce qu'il va tirer une grande gloire en faisant demeurer son esprit en vous. Tout ce qui est bon en vous et en moi vient du Saint-Esprit. Tout cela est essentiel, mais la réalité, c'est que beaucoup, au milieu de nous, sont dans la confusion en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit et ses actions. C'est un peu comme dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Passage que nous lirons souvent au cours de cette étude et où les gens disent « Nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Parfois, j'ai cette même sensation. » Dans la vie de l'Église d'aujourd'hui, nous avons vu se développer plusieurs mouvements. Nous avons revendiqué des manifestations de l'Esprit partout dans le monde et en fin de compte, plusieurs fois, nous sommes rentrés en réaction. Et par voie de conséquence, nous nous sommes mis à définir le Saint-Esprit plus par ce qu'il ne fait pas que par ce qu'il fait. Nous devons nous repentir de cette attitude. Le Saint-Esprit est indispensable. Nous en avons besoin. C'est le cri d'Evan Roberts pendant le réveil du Pays de Galles en 1904 quand il a dit « Honorez le Saint-Esprit, honorez le Saint-Esprit, honorez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital. » Le Saint-Esprit est insaisissable. Jésus parle de l'Esprit en le comparant au vent qui souffle où il veut. Vous entendez le bruit qu'il fait, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient et où il va. Pour être tout à fait honnête, le concept de Dieu le Père et de Dieu le Fils est un peu plus facile à cerner pour nous que celui de Dieu, le Saint-Esprit. Père, nous avons une image de ce que cela représente dans notre esprit, car il s'agit d'une relation humaine. Le Fils, Jésus, s'est fait chair et homme, comme nous. Mais le Saint-Esprit, cela s'avère difficile. Parmi les passages spécifiques qui nous parlent du Saint-Esprit, il y a les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean. Peu de passages nous font ressentir de façon aussi forte et systématique le Saint-Esprit dans sa globalité. Le connaître représente un défi. Le Saint-Esprit est indispensable et impalpable. On ne peut sonder complètement le Saint-Esprit. D'un point de vue doctrinal, si on se réfère à ce que Bernard Ramm a dit, nous ne pouvons pas avoir une connaissance absolue du Saint-Esprit, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le connaître en vérité. Nous pouvons connaître le Saint-Esprit. Il nous est impossible de le comprendre complètement, tout comme que nous ne pouvons appréhender totalement Dieu. Ses grâces et sa grandeur infinie. L'Esprit se révèle à nous. Il ne nous cache pas qui il est. On peut le connaître. L'Esprit Saint est une personne, comme c'est beau. Bien souvent, quand on pense à Dieu le Père, on le voit plutôt comme un être transcendant, qui se tient en quelque sorte en retrait de nous. 2000 ans d'histoire nous ont même rendu le Fils bien lointain. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit se tient là, où nous sommes. Il vit en nous. Il demeure en nous de manière très personnelle. Le Saint-Esprit est l'agent qui, par la Trinité, touche nos vies de manière très intime. Nous pouvons expérimenter la présence du Saint-Esprit. C'est là que nous pouvons le toucher quand nous voyons sa puissance opérer. Quand vous commencez à parler de Jésus à quelqu'un, le Saint-Esprit vous remplit de sa puissance pour le faire. Là, les choses deviennent tangibles. Quand vous passez par des temps difficiles et que vous vous mettez à prier, alors le Saint-Esprit commence à prier aussi en vous avec des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. C'est une réalité tangible. Quand, dans votre vie, vous devez prendre une décision, que vous avez besoin de la direction de Dieu, et quand le Saint-Esprit est en train de vous montrer le chemin, cette présence impalpable devient très tangible. Le Saint-Esprit, objet de controverse. Nous sommes environnés d'expériences, et quelques-unes, parmi elles, sont étiquetées comme venant du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a un danger quand on les confond avec la doctrine du Saint-Esprit et quand on base notre connaissance du Saint-Esprit sur l'expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Non qu'il faille jeter les expériences par la fenêtre, mais nous devons plutôt regarder nos expériences en les exposant à la vérité des Écritures. C'est pour cela que nous allons être encore conduits à poser des questions sur la manière dont le Saint-Esprit agit. Prions que l'Esprit-Saint nous donne une grande sagesse pour entendre sa parole et réfléchir à nos expériences à la lumière de la parole de Dieu. À la découverte du Saint-Esprit dans l'histoire. En parcourant l'histoire, nous allons voir comment la controverse s'est développée. Nous allons vite sur la question, mais je vais vous montrer pourquoi c'est important. Je vais vous présenter comment les gens ont vu le Saint-Esprit au cours des 2 millénaires d'histoire chrétienne. La période des Pères de l'Église. On commence par la période des Pères de l'Église. Depuis la fin du 1er siècle, période où se termine le Nouveau Testament jusqu'au 8e siècle, nous rencontrons là des hommes comme Origène, Clément de Rome, Tertullien et Augustin qui ont enseigné sur le Saint-Esprit, l'inspiration des Écritures et sa divinité. Nous voyons là des gens qui ont littéralement sacrifié leur vie pour défendre les vérités dont nous allons parler maintenant. Nous nous focalisons davantage sur le Christ, mais la personne de l'Esprit était au centre de beaucoup de discussions, et particulièrement dans les conciles de cette époque. Le gnosticisme était une croyance qui réduisait la divinité de Christ. Au niveau du Saint-Esprit, ils affirmaient que le Saint-Esprit était la mère de Jésus et des gens. Des exagérations découlèrent de cela. Le Saint-Esprit n'était pas vraiment Dieu. Les gnostiques affaiblissaient la divinité de Christ et le Saint-Esprit. Un autre enseignement qui vit le jour fut le montanisme. Montanus et ses disciples se faisaient les porte-parole du Saint-Esprit. Quand Montanus fut baptisé, il se mit à parler en langue et à prophétiser. Ensuite, lui Et deux de ses disciples, femmes, se mirent en tête qu'ils étaient devenus les porte-paroles du Saint-Esprit et qu'ils allaient délivrer par l'Esprit aux gens des paroles ayant une autorité égale à celle des Écritures. D'autres mouvements émergèrent parallèlement durant cette période. L'époque médiévale, que nous situons globalement entre le 8e et le 15e siècle, fut marquée principalement par un schisme. C'est à ce moment-là que se produisit la grande division entre l'Église d'Orient et d'Occident. La question tournait autour du point suivant. Le Saint-Esprit procède-t-il du Père et du Fils ? Suivez-moi bien. On serait tenté de penser à ce stade, qui s'intéresse à ce schisme, ce n'est pas la mer à boire. Au fond, la discussion était la suivante. Le Saint-Esprit vient-il du Père seul ou du Père et du Fils ? On appelle cela la querelle du filioque. Beaucoup de gens essayaient d'imaginer la Trinité comme s'il avait été deux têtes. Donc, l'Esprit vient du Père et le Fils vient du Père. Pour cette raison, les chrétiens orientaux se séparèrent en proclamant « Nous ne dirons jamais que l'Esprit vient du Père et du Fils ». Les chrétiens d'Occident affirmèrent que l'Esprit venait à la fois du Père et du Fils. C'est important, car on voit aujourd'hui beaucoup de religions soi-disant chrétiennes qui croient que l'Esprit vient seulement du Père et conclut. Si ceci est la vérité, alors l'Esprit peut agir au travers d'autres religions sans lien avec Christ et amener les gens à Dieu sans la médiation de Christ. On voit ce pluralisme rampant, vivant, et prospère dans de nombreuses dénominations dans l'Église visible d'aujourd'hui. C'est stupéfiant. Le nombre de responsables chrétiens qui enseignent que l'Esprit amène des gens à toute religion à Dieu et qui excluent complètement Christ de leur théologie. Vous voyez l'importance de tout cela. La période de la Réforme. Nous voici à la période de la Réforme, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cette période produisit des hommes comme Martin Luther, Ulrich Zwingli et Jean Calvin. Calvin, en particulier, est connu comme le théologien du Saint-Esprit. Le calvinisme insiste sur ce point. Le Saint-Esprit nous permet de croire avec assurance deux choses dans l'inspiration de l'Écriture et dans les multiples aspects du salut. Des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin parle beaucoup de la relation qui existe entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Après la Réforme vint le temps du puritanisme. Un homme du nom de John Owen, parlant beaucoup de la sanctification progressive, de grandir dans les voies de Dieu et du rôle du Saint-Esprit dans notre marche de sanctification. L'époque moderne. Ensuite, nous entrons dans la période moderne, du XVIIIe siècle à nos jours. Il y eut une variété de mouvements pendant cette période. Le mouvement scolastique, débutant à l'époque médiévale pour atteindre son apogée au XVIIIe siècle, qui étudie l'esprit, devint secondaire par rapport à d'autres doctrines. Ce mouvement ne fut pas très important et disparut pratiquement sous d'autres doctrines. Comme l'arminianisme, un mouvement qui atténue l'importance de la souveraineté de l'esprit et met plus l'accent sur leur libre arbitre. On insiste plus sur l'homme que sur le Saint-Esprit, sur ce que l'homme fait plutôt que ce que le Saint-Esprit initie et éveille en nous. Le perfectionnisme, une doctrine issue de John Wesley et du mouvement méthodiste. Parmi les nombreuses bonnes choses à son actif, Wesley prêcha que les croyants pouvaient expérimenter une complète sanctification dans cette vie. Après votre conversion, l'œuvre du Saint-Esprit vous permet de devenir complètement saint sur cette terre. À la même époque que Wesley, il y avait un autre prédicateur, George Whitefield, qui conduisit le revivalisme, mouvement qui éclata avec le Grand Réveil, période où des multitudes vinrent à Christ. Wilfrid se concentrait sur le rôle du Saint-Esprit dans la régénération et sur son rôle pour amener les personnes à la foi en Christ. Ensuite, il y eut une période de transition avec ses réunions de réveil évoquant le rôle de l'Esprit en parallèle avec l'action de l'homme dans le processus de régénération. Des hommes comme Charles Finney se levèrent et commencèrent à enseigner sur ce que l'homme doit faire pour permettre au Saint-Esprit d'agir, insistant plus sur le rôle actif de l'homme en position à l'attitude de dépendance et de recherche du Saint-Esprit. Le rationalisme. Avec ce courant, la raison humaine devient le standard suprême dont tout ce qui est de nature spirituelle perd de son autorité. Comme le Saint-Esprit ne peut pas se démontrer, en aucun cas, l'Esprit n'a d'autorité. Le romantisme tomba dans l'extrême et mit l'emphase sur les sentiments et les émotions au point de négliger la doctrine et la vérité. Quand on arrive à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, on trouve le libéralisme qui remet en question l'inhérence et l'inspiration des Écritures. La vision des libéraux est celle-ci. L'enseignement des Écritures n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'inhérence, il n'est pas infaillible et il n'est pas pleinement vrai. Le pentecôtisme devient populaire au début du XXe siècle. Il commença lors des rassemblements d'Azusa Street à Los Angeles en 1906. Le prêcheur de la sainteté, William Seymour, commença ses prêches et ses réunions étaient marquées par le parler en langue, les guérisons par la foi et des exorcismes. Voici les trois principaux enseignements qui virent le jour et caractérisent la doctrine pentecôtiste. Le baptême dans le Saint-Esprit suit la conversion. Nous en reparlerons plus tard. Après notre conversion, nous recevons un second baptême, le baptême dans l'Esprit. Le parler en langue est la preuve de ce baptême. Par conséquent, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous parlerez en langue. Tous les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament doivent être recherchés et utilisés aujourd'hui. La prophétie, le don de guérison, les langues. Tout cela, j'en parlerai plus tard. À peu près au milieu du XXe siècle, le pentecôtisme, qui était pratiquement devenu une dénomination, commença à infiltrer différentes sphères religieuses de bien des manières. Certains mouvements en sortirent. Certains se déclarèrent non-pentecôtisants. Ensuite vinrent les néo-pentecôtistes, qui étaient une nouvelle sous-dénomination du pentecôtisme. Le mouvement charismatique. Il est sorti du pentecôtisme, mais ce n'est pas vraiment une dénomination. Ce mouvement s'est produit alors qu'il existait déjà des dénominations comme les luthériens, les épiscopaliens et les méthodistes. Même les communautés catholiques commencèrent à expérimenter des tendances charismatiques. Le mouvement charismatique affirme principalement que tous les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament sont disponibles et peuvent être exercés dans l'Église de nos jours. Les langues, la prophétie et le don de guérison et d'autres dons dont nous parlerons plus tard. Pour être honnête, je ne suis pas très fan du terme « charismatique » pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Les principales différences entre pentecôtistes et charismatiques résident dans le fait que les charismatiques ne sont pas aussi stricts sur la nécessité d'un second baptême dans l'Esprit. Une autre partie des charismatiques ne sont pas attachés strictement au fait que les langues seraient le signe irréfutable de la réception du baptême dans l'Esprit. Enfin, nous arrivons au mouvement de la troisième vague qui débuta au début des années 80. En plus de reconnaître la validité de l'ensemble des dons du Nouveau Testament, la troisième vague insiste sur les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent l'évangélisation. Au séminaire de Fuller, le professeur John Wimber enseignait sur l'évangélisation de puissance par les signes et les prodiges. Il affirmait que faire de l'évangélisation devait s'accompagner de signes et de prodiges. Cette doctrine fut diffusée par le mouvement Vineyard, mouvement charismatique international. Maintenant, vous pensez, où cela nous mène-t-il ? Pourquoi partager toutes ces choses ? Voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'il est important que nous ayons cette compréhension de l'histoire de l'Église. Cela nous rend prudents. Vous n'êtes pas les premiers à étudier et réfléchir sur ces questions. On peut regarder en arrière ces deux millénaires et voir les domaines où le peuple de Dieu a dévié dans l'hérésie et abandonné la parole de Dieu. Nous voulons être prudents. L'histoire de l'Église et notre compréhension de celle-ci nous aide, nous donne des lignes directrices pour nous assurer que nous sommes enracinés dans la parole. Cela nous conduit à la prudence et l'humilité. Je ne prétends pas résoudre toutes les questions qui concernent le Saint-Esprit. Je suis le premier à admettre que j'ai des trous dans ma théologie et il y a des points où j'ai sûrement tort. L'ennui, c'est que je ne sais pas où j'ai tort. Mais je veux vous encourager, par bonheur, la majorité des enseignements que vous entendez ici sont fondés sur la vérité. La vérité, c'est que ce sont des questions très importantes, des points vraiment controversés dans le christianisme, et il y a, à n'en pas douter, place au sein du corps de Christ pour s'accorder ou, au contraire, ne pas être d'accord sur ce point. Je me suis presque résigné au fait que certaines choses que je vais vous montrer dans la parole et certaines conclusions que je vais en tirer ne seront pas agréables à certains esprits. Mais mettons tout à la lumière. Même si cela nous ramène à la réalité, la description de l'histoire de l'Église ne va pas nous conduire à lever les bras au ciel en disant « Bon, eh bien, pourquoi essayer de comprendre ?» La réalité, c'est que pendant ces 2000 ans, le peuple de Dieu a eu la parole à disposition et le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est bon. Il nous guidera. L'un de ses buts est de nous conduire dans la vérité. Donc, nous pouvons avoir une ferme assurance alors que nous plongeons dans ce que décrit la parole. Le Saint-Esprit agira avec bonté en nous et nous conduira ensemble dans la vérité. Cela dit, commençons notre étude. La personne du Saint-Esprit, ce qu'il est. Utilisation du mot « esprit » dans les Écritures. Il existe 5 façons générales d'utiliser le mot « esprit ». Une façon qui se réfère au phénomène naturel, le vent. Quelques versets font référence au vent. Ce qui se rapporte au monde évangélique, ce qui se rapporte au monde angélique, comme dans les expressions « esprit mauvais ». Ce qui se rapporte à la vie humaine, le souffle ou l'esprit, et à l'attitude des hommes, comme dans les termes « un esprit d'amour » ou « un esprit de discernement ». Et puis, l'attribut divin, l'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jésus dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». L'image véhiculée ici ne sous-entend pas que Dieu est le Saint-Esprit. Il est dit « Dieu est esprit ». J'insiste sur le fait que le mot « esprit » fait référence le plus souvent à un attribut divin. Mais le Saint-Esprit nous est décrit dans les Écritures à peu près 100 fois dans l'Ancien Testament et encore bien davantage dans le Nouveau Testament. Ensuite, il y a d'autres usages qui nous mettent un peu au défi. Et c'est pour cette raison que l'on peut voir dans différentes traductions le mot « esprit » écrit avec une lettre majuscule et parfois non. Les traducteurs essaient dans ce contexte de savoir ce qu'il en retourne. S'agit-il d'une référence à un attribut divin au Saint-Esprit ou à autre chose. Donc, cela reste un défi. En résumé, c'est de cette façon que les Écritures mentionnent le mot « esprit ». Je voudrais maintenant que vous pensiez à quatre facettes du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. L'Esprit n'est pas une force. Il n'a rien à voir avec une force magique, un pouvoir magique comme souvent nous le voyons, comme une force impersonnelle, car c'est bien ainsi souvent que les gens en parlent. Cette force, cette puissance à l'œuvre. Regardez dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, ce qui est dit. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Et aussi, dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 37 et 38, « Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Dans ces deux passages, nous voyons que l'Esprit a vraiment une puissance, mais essayez de substituer le mot « puissance » à « esprit ». Jésus, rempli de la puissance, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Faites cela avec le verset suivant. Il est écrit « Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. » Non pas « de puissance » et « de puissance ». Le Saint-Esprit est puissant. L'Esprit apporte la puissance et donne de l'autorité aux personnes. Mais ce n'est pas d'une force impersonnelle dont il est question ici. L'Esprit n'est pas un sentiment. Sinon, cela équivaudrait à le placer au même niveau qu'une attitude humaine. Parfois, je pense que nous imaginons l'Esprit de Dieu à peu près comme l'Esprit de Noël, etc. Les Écritures n'enseignent pas cela. Il ne s'agit pas d'un sentiment. Écoutez bien comme le mot utilisé dans le verset suivant révèle une personne. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit est une personne. Voilà une vérité importante. Seule une personne peut parler en disant « je » ou « moi ». Un vent, une force ou un sentiment ne peuvent pas s'exprimer ainsi. Acte 14, 2 dit ceci. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les forces et les sentiments ne parlent pas. Ils ne lancent pas des appels. Ils ne font pas des choses pour eux-mêmes. C'est ce que le Saint-Esprit fait. La Bible décrit le Saint-Esprit avec des traits de caractère personnel. Une intelligence. Regardons à nouveau Jean 14, 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Une volonté. Le Saint-Esprit possède une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Des émotions. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Le Saint-Esprit éprouve des sentiments personnels. Nous avons une relation avec lui. Il se lie à nous de manière personnelle. On ne peut pas le tromper. Acte 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il peut être affligé. Ésaïe 63, 10. Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemis et les a combattus. Il peut être éteint ou étouffé. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. On peut lui résister. Dans Actes, chapitre 7, au verset 51, Étienne parle aux dirigeants et membres du Sanhédrin. Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit peut être aimé, adoré et obéi, ou offensé, attristé, et si on peut pécher contre lui, alors c'est qu'il est forcément une personne. Pas une chose, mais une personne. Comme une personne, il a un caractère et des sentiments. Le Saint-Esprit exerce un ministère personnel. Nous ne faisons ici qu'un bref survol car nous étudierons l'œuvre de l'Esprit Saint plus tard. Il nous conduit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Il rend témoignage à notre esprit. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Il nous aide. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Romains, chapitre 8, verset 26.
Vous venez d'écouter un message de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du docteur David Platt, pasteur de l'église Brook Hills aux USA.